Radio Évangile du Sud-Ouest présente Parole aux associations et mouvements associatifs. But, objectif, raison d'existence, fonctionnement, expérience. Découvrez et faites découvrir votre structure.
Bienvenue à votre émission Parole aux associations et mouvements associatifs. Aujourd'hui, nous allons accueillir des personnes qui font partie donc de l'association Espoir et Malvin donc du Sud-Ouest et association ABCD donc alphabétisation Braille Conseil et développement donc de la Suisse avec une personne ressource passée au Dragon Boubacar qui travaille donc avec l'Alliance biblique du Burkina Faso. Alors, ce sont des structures avec qui nous allons échanger tout à l'heure. Mais ces échanges vont porter principalement par rapport à une situation qui consiste à la stigmatisation des personnes aveugles et malvoyantes. Alors, pour parler de cette question, nous avons Kamou Yara. Vous êtes le président de l'association, c'est ça?
Oui, Espoir des malvoyants aveugles de Gawa.
Oui, Espoir malvoyants donc de Gawa. Et avec Jean-Marc,
président de l'association Alphabétisation Braille Conseil et Développement ABCD.
Ok, et puis comme nous l'avons dit, Monsieur Oudraogo.
Je suis le coordonnateur de 21 associations.
Personnes handicapées, pilotées par l'Alliance publique basée à Ouagadougou.
Alors, notre émission aujourd'hui va mettre l'accent en particulier par rapport à la stigmatisation des personnes handicapées et surtout l'handicap lié à la vue. Et ce sera donc des témoignages que nous allons donc recueillir. Et je crois que la situation s'y prête assez bien. Nous avons Yara, vous êtes aveugle, vous parlez couramment français. Comment ça s'est arrivé?
Bon, il faut dire que mon histoire remonte en 97 suite à la méningite. J'ai perdu la vue, ce qui ne m'a pas du tout empêché en tout cas de nourrir d'espoir que je pouvais encore être utile pour la société. Et j'ai intégré l'ABPAM en 99 pour faire le braille. C'est une méthode d'écriture que les aveugles utilisent de manière tactile pour pouvoir lire et écrire également. Et ce qui m'a permis, après cette formation à l'ABPAM, de retourner avec les autres aveugles de Gawa. Nous avions créé l'association Espoir des malvoyants et aveugles de Gawa, où je dispensais les formations en tissage de l'hippico et puis de chaise. Et par la suite, nous avions ajouté l'alphabétisation braille pour les adultes handicapés de la vue. Pour moi, depuis ce temps, en tout cas, j'ai vécu pas mal de situations, j'allais dire contradictoires à ce que moi je m'attendais, parce que je pensais que la société pouvait m'aider à être intégré facilement. Malheureusement, c'est cette même société qui m'a condamné, parce que les amis sur lesquels je pouvais compter, continuer à tenir de ces propos-là, ce n'est plus la peine. Il a perdu la vue, il ne peut plus rien faire, il ne va plus rien devenir. Donc c'est vraiment des propos et c'est très choquant. Si tu n'es pas animé d'un double courage, j'avoue que tu baisses les bras et puis c'est fini.
À cette époque-là aussi, tu travaillais?
Oui, à l'époque, effectivement, j'étais vacataire au niveau du trésor public de Gawa. Mm-hmm. Et malheureusement, quand c'est arrivé, même l'État qui devrait également aussi m'accompagner dans ce sens-là n'a même pas jugé bon de continuer le contrat. Ils l'ont vite rompu pour me payer mes droits et puis c'est fini.
Jean-Marc, contrairement à Yara, vous avez perdu la vue?
Alors moi, j'ai perdu la vue très tôt, à l'âge de 8 ans, suite à un glaucome. Mais j'ai eu la chance de faire une école spécialisée, ensuite des études universitaires. Et je travaille maintenant comme chargé de projet dans le domaine numérique. Et j'enseigne également aux personnes aveugles et malvoyantes en Suisse l'utilisation des smartphones et des tablettes. Donc j'ai pas mal de cordes à mon arc. Mais la stigmatisation, je pense que Yara a mis le doigt sur quelque chose de terrible. Que ce soit au Burkina Faso ou en Suisse, on pourra en parler peut-être plus avant, mais la stigmatisation est importante. Pour beaucoup, le fait de perdre la vue, vous êtes quelqu'un qui ne sera plus grand-chose. Alors, la grande différence qu'il y a entre le Burkina Faso et chez nous, c'est que cette indifférence, ici, elle est terrible, parce que l'État ne vous vient pas en aide, comme l'a dit Yara. La grande différence, c'est que chez nous, ben voilà, on dit ben vous êtes aveugle, finalement vous ne travaillez plus, c'est pas trop grave, il y a un système social qui est là pour vous, pour subvenir à vos besoins et à votre éventuelle famille. Mais la stigmatisation est malheureusement la même. Les débouchés de travail sont difficiles, que ce soit au Burkina Faso ou chez nous. La différence chez nous, c'est qu'effectivement, on a un État qui fonctionne pas toujours à merveille, mais qui fonctionne tout de même. Et il y a surtout un réseau social, d'assurance sociale, qui permet aux gens de ne pas être contraints, comme je le vois ici, de tendre la main parfois au bord de la route, ce qui sont des images pour moi absolument insupportables. Et c'est pour ça que je consacre une partie de ma vie à tenter, avec mes humbles moyens et surtout avec l'aide de mes amis membres de mon comité, d'essayer de changer à quelque niveau que ce soit. Le centre de Gawa est une petite goutte d'eau dans la mer, mais cette goutte d'eau, ben, elle peut s'étaler, elle peut aller ailleurs. Et j'ai à cœur de soutenir mes frères aveugles et malvoyants au Burkina. Mais il ne faut pas idéaliser ce qui se passe chez nous en Suisse. C'est de plus en plus difficile, malgré les moyens techniques dont nous disposons et que malheureusement n'ont pas les aveugles et malvoyants, en tout cas pas encore ici au pays des hommes intègres.
Okay. Et chez vous là-bas, le système scolaire, tout de suite vous venez de dire que vous avez fait l'université?
Alors, en Suisse, il y a, à l'époque, parce que je suis vieux, hein, faut quand même le dire, à l'époque, tous les aveugles et malvoyants allaient dans les écoles spécialisées, comme la BEPAM, par exemple, ici au Burkina Faso. Maintenant, le principe, comme également au Burkina, c'est l'inclusion. Et c'est, ça a des avantages et aussi des désavantages. Il faut pas non plus idéaliser. Mais j'ai eu la chance d'être poussé par des amis et j'ai fait... une école de commerce où je me suis ennuyé religieusement, si vous me passez l'expression à radio évangile. Oui. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire des études de russe et d'histoire antique à l'université. Ça ne m'a pas donné du travail, mais ça m'a ouvert...
Est-ce que c'est une université spécialisée?
Non, pas du tout. Non, okay. Non, c'était l'université de Genève, pas du tout spécialisée. Mais ça, c'était essentiellement possible grâce aux appuis techniques, informatiques surtout, dont je disposais. Mais ce n'est pas ça qui vous donne du boulot. Ça vous donne une ouverture d'esprit, ça vous crée un réseau social et tout ça. Mais il faut quand même beaucoup, beaucoup d'efforts pour trouver du travail. Parce que, de nouveau, on considère qu'une personne aveugle, bon, ben voilà, il a une rente chaque mois, ben, qu'il reste à la maison tranquille, puis on ne s'en occupe pas. Et les conséquences chez nous sont moins graves que chez vous, mais psychologiquement, c'est tout aussi difficile, même si au Burkina, c'est lié peut-être à certaines superstitions et que chez nous, c'est peut-être lié à l'indifférence.
À l'indifférence. Oui. Okay. Yara, mais vous avez, après ça, vous avez perdu la vie, mais vous êtes parti à l'école néanmoins.
Oui, après le passage à la BEPAM, j'ai fait un tour à l'école sociale. C'était à l'époque l'école nationale du service social qui forme toujours encore les travailleurs sociaux. Et j'avoue que même à l'intérieur de cette école-là, j'ai subi pas mal de stigmatisation, j'allais dire. Parce qu'à l'époque, le système qui n'était pas très développé pour la transcription et le décodage de nos devoirs, le directeur des études et des stages à l'époque m'a demandé de rendre des devoirs en noir. L'écriture noire, c'est cette forme d'écriture que vous les voyants, vous avez là. Donc, demander cela à un aveugle, je pense que c'était de l'impossible. Parce que moi, je suis parti m'inscrire à l'école avec la tablette Braille. Et j'imaginais que mes devoirs pouvaient être transférés à Ouagadougou pour être décodés et transcrits. Bon, malheureusement, il ne m'a pas compris parce que quand il m'a demandé est-ce que j'avais la machine, j'ai dit oui. Pour lui, c'était la machine dactylo à l'époque. Voilà, donc, et que j'étais en mesure de lui rendre des devoirs en noir. Et quand je me suis très bien expliqué, il m'a dit que ce ne serait pas possible. Et si je retournais des stages sans la possibilité de lui rendre les devoirs en noir, il me remettait l'argent et puis c'était fini ma formation. J'ai dû écrire au ministre de l'Action sociale. À l'époque, c'était le ministre Gilbert Ouédraogo qui a réagi promptement dans les 15 jours qui ont suivi le dépôt de ma lettre. Et puis, en tout cas, on a trouvé une solution et la BEPAM a pu transcrire mes devoirs jusqu'à l'examen de sortie.
Est-ce que l'IARA est vraiment très important? Parce que le problème, les aveugles ont un potentiel équivalent à une personne voyante. Il n'est pas ni mieux ni moins bien, il peut être pas bon, mais c'est pas parce qu'il est aveugle qu'il est pas bon, c'est pas parce qu'il est aveugle qu'il est meilleur. Mais ce qui manque souvent, c'est la formation. Et c'est vrai que chez nous en Suisse, une des premières choses que j'ai fait quand j'ai perdu la vue, j'ai appris le braille, c'est vrai, mais j'ai appris parallèlement la dactylographie. Parce que on voulait pas qu'on soit confronté à la situation qu'a vécu Yara. Et ce qu'on constate chez nous, le manque de travail est souvent dû à des problèmes de formation de base. Et moi, je vois dans le cadre de mon boulot, au niveau de l'informatique, les gens, il leur manque souvent des bases. Alors évidemment, quand vous n'avez pas les bases et les outils de travail de base, vous êtes très vite en situation fragilisée. Et après, les malentendus commencent de s'accumuler. Et on finit à des situations comme avec Yara, où le gars dit « je te rends ton argent, rentre chez toi ». Et ça, c'est dramatique.
Vous, en tant que pasteur, vous travaillez dans le domaine donc, de Braille, certainement avec les personnes en situation handicapée. Mm-hmm. Alors, comment vous vivez cette situation que traversent un peu les personnes handicapées visuelles?
Bon, merci de nous avoir reçus. Et je vais dire que moi, en tant que coordinateur, je parcours les villes et les villages. J'ai vu presque toutes les couleurs et tous les types de stigmatisation. Et ce qui est frappant et ce qui est aussi choquant est que la stigmatisation commence à la maison. Ta propre famille, sur qui tu comptes pour t'aider à devenir quelqu'un, sont toujours les premiers à te stigmatiser. J'ai une tonne de témoignages que je peux raconter. Je vous raconte un seul. Il y a un jeune homme. Et il avait environ 35 ans. Et à l'âge de 35 ans, il ne savait pas porter son pantalon. Il ne savait pas aller au WC pour chier. Et il ne savait pas porter sa chemise. Il porte son pantalon à l'envers, la chemise à l'envers. Et quand il chie, il piétine. Pourquoi? Parce que quand il est devenu handicapé, très tôt, sa famille ne l'a jamais permis de franchir la porte de la cour. Jamais. Il est toujours dans une case. Et quand ils font le repas, il sert sa part toujours dans le même plat qui est presque sale. Et à la porte de la case, on jette le plat. On ne rentre pas dans la case pour lui remettre le repas. De la porte de la case, on jette le repas à l'intérieur. À lui qui est aveugle, qui ne voit pas, c'est à lui de se débrouiller pour trouver le plat. Se débrouiller, je ne sais pas si on lui donne de l'eau pour laver les mains. C'est l'enfant de la famille, ce n'est pas un étranger de la famille. On ne lui a jamais appris à laver ses habits, encore moins comment porter un habit. Donc il était presque nu dans sa case. Dans nos sorties de sensibilisation, on a fait sa découverte. La famille a carrément refusé qu'on entre en contact avec lui. Pourquoi? Parce que généralement en Afrique, la personne handicapée dans une famille est considérée comme une malédiction. Parce que la famille est maudite qui a une personne handicapée. C'est ce que les gens croient. Donc, on a insisté à plusieurs reprises. En fin de compte, ils nous ont permis d'entrer en contact avec lui. On l'a amené dans notre centre. On l'a appris d'abord à marcher. Parce qu'il ne sortait pas de sa case. On l'a appris à marcher. La deuxième chose, on lui a appris à manger tout seul. La troisième chose, on lui a appris à s'habiller. Et la chose la plus difficile, c'était de lui appris à aller au WC. C'était la chose la plus difficile. Et aujourd'hui, je vous dis que ce monsieur est devenu un grand garçon.
Voilà.
Il s'habille tout seul, il mange tout seul, et il va au WC tout seul. Il sait lire et écrire en braille et il tient un raisonnement logique. Voilà. Pour dire que les gens pensent que la personne handicapée est inutile, incapable. Mais ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. La personne handicapée, si on lui donne les mêmes opportunités, les mêmes possibilités que nous offrons aux personnes valides, personnes voyantes, ils peuvent faire des merveilles. Après ce cercle familial, la deuxième catégorie d'acteurs de stigmatisation, c'est le cercle des amis. Voilà, tu perds la vue, comme Yara vient de le dire, tes amis disent, bon, maintenant tu n'es plus utile, tu ne peux plus sortir avec nous, puis tu deviens un fardeau pour eux.
C'est ça.
Voilà, tu ne peux plus marcher comme eux, tu ne peux plus courir comme eux, donc ils te laissent. Donc, vous voyez, tu te sens isolé, tu n'as pas ta famille, tu n'as plus tes amis. La troisième catégorie, c'est le milieu de travail, les anciens collègues qui t'oublient.
Ouais.
Voilà. La quatrième catégorie d'acteurs de stigmatisation, c'est l'administration publique. C'est terrible, hein? L'état dans lequel tu es tu payes tes taxes même en étant handicapé la vue. Tu payes tes taxes comme tout le monde.
Oui.
L'État est incapable de t'aider. L'État est incapable de te donner les mêmes opportunités. Et l'État te déclare inutile.
Oui.
Il te déclasse.
Oui.
Et même les concours, les recrutements sur mesure spéciale qui étaient faits deux fois. La deuxième fois, il fallait insister. Même la première fois, il a fallu beaucoup insister pour que ça soit fait. Donc, pour dire que pour une personne handicapée, il faut faire deux, trois, quatre fois l'effort qu'une personne valide doit faire pour avoir les mêmes choses qu'une personne valide.
Ouais.
C'est trop demandé. Voilà, voici brièvement dit ce que les personnes handicapées vivent.
On constate effectivement que dans les administrations publiques, il n'y a pas de rampe d'accès pour que les gens puissent y aller à l'heure actuelle. Vous avez dit que dans votre centre que vous avez, il y a eu 500 et quel le recensement actuel.
Le recensement de 2013.
Voilà, il y a jusqu'à 500 personnes. Les gens continuent de cacher donc, les enfants en pensant qu'il n'y a plus de possibilités pour eux. Vous, en tant que personne handicapée visuelle, parce que j'estime que tout le monde est un potentiel handicapé. Hein,
c'est ça.
Le visuel. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu de la vue.
Suite à un accident.
Une maladie. Ouais. Quelle pourrait être donc votre contribution au développement?
Moi, je dis même que déjà, nous participons même au développement de nos villes, et voire même de la nation. Parce que rien que le lundi passé, j'ai été pour un petit centre d'accueil d'hébergement que je suis en train de mettre en œuvre. Ils m'ont fait payer 80 000 francs pour l'année.
Donc, les taxes.
Mais
quelque part, on dit que vous devez avoir un avantage.
Mais ce qui était paradoxal, j'ai même brandi ma carte d'invalidité. Mm-hmm. Ils ont fouillé les codes. Il n'y a rien. J'ai dit, d'accord, dans ce cas, comme de vous à moi, humainement, est-ce qu'on ne peut pas me faire une réduction? Le monsieur est rentré voir son patron qui a dit, comme c'est une activité lucrative, pas de réduction. Et j'ai dit, dans ce cas, je ne peux pas payer les 80 000 du coup, mais je vais l'échelonner durant les 12 mois, j'ai payé 20 000. Et le reste, j'ai dit, je vais morceler ça jusqu'à épuisement. Donc, quelque part, pour dire que le même État, comme le pasteur venait de le dire, mm-hmm. qui pense qu'on est incapable, cherche encore à soutirer quelque chose de nous. Mm-hmm. Alors que l'État devrait mettre, en tout cas, des mesures pour nous favoriser. Ces mesures existent sur papier. Malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Là encore, pour dire comment nous contribuons, déjà avec ce centre-là, mm-hmm. nous sommes en train d'accompagner même l'État dans sa mission. Parce que ce n'était pas aux personnes handicapées de la vue de construire un centre de formation. Mais c'est à l'État de nous offrir ces opportunités de formation-là. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que l'État fait? Alors que quand vous prenez les textes burkinabés, c'est très bien harmonisé, c'est très bien conçu. Mais malheureusement, dans la pratique, c'est nul. Et moi, j'ai toujours eu l'occasion de le dire, en tout cas au plus haut niveau. Lorsque je suis dans des rencontres avec les autorités, je leur dis que ben, ils ont failli un peu à leur mission parce que c'était à eux de faire ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, nous ne sommes pas très bien accompagnés aussi. Ouais, même pour avoir ces terrains-là, j'avoue que c'était la croix et la bannière. Hein. Et jusqu'aujourd'hui, on ne nous a même pas encore donné le papier quand même qui nous montre définitivement que c'est notre terrain. C'est encore à Ouagadougou.
Il a fallu que vous marchiez pour le 11 décembre.
On voulait même nous retirer le terrain.
Le terrain.
Sous prétexte que c'est au nom de l'intérêt national. Il a fallu qu'on écrive au gouverneur, qu'on écrive au maire. Et que même je me présente séance tenante pour dire que la cité doit être inclusive. Parce que la cité est venue nous trouver à cet endroit. Ce n'est pas à nous de quitter pour faire construire la cité, mais c'est la cité qui doit nous inclure. Et finalement, on nous a laissé.
La contribution pour les personnes handicapées visuelles est énorme.
C'est clair que l'État burkinabé a signé, je crois, la Convention de l'ONU sur les personnes handicapées.
Oui.
La Suisse aussi. Beaucoup de gens l'ont signé, mais n'ont peut-être pas les moyens de la mettre en œuvre. Hein. Et c'est clair que l'État burkinabé, ben, il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Et c'est malheureux, c'est pas le seul pays d'Afrique qui est dans cette situation-là. Nous, en tant qu'association, bien, on pallie quelque part les insuffisances des structures de l'État, de la mesure de nos moyens. Et j'espère que ça ne durera pas éternellement, dans le sens que L'État burkinabé ne peut pas vivre sous perfusion tout le temps, ça va juste pas. C'est pour ça que nous, dans le cadre de nos projets, on a un avenir de 5 ans et on espère qu'après 5 ans, l'association qu'on a soutenue, accompagnée, puisse voler de ses propres ailes. C'est vraiment le but. Mais je sais que c'est pas facile. Et la Suisse est très très liée au Burkina Faso. J'ai rencontré le président du Faso l'année passée. Il y avait beaucoup d'associations suisses actives au Burkina. On est très très nombreux les Suisses ici. Pourquoi ? Ben, pour diverses raisons. Je pense d'abord parce que c'est un pays qu'on aime. C'est un pays qui politiquement est quand même assez stable malgré les difficultés qu'il y a eu. On a le sentiment ici que les Burkinabés sont des gens profondément honnête, profondément travailleur, et c'est vraiment des gens de confiance. Et ici, nous les Suisses, on est en confiance. Et on a besoin de ça, nous les Suisses. On est un petit peu douillet, les Suisses, hein. On n'aime pas les trucs. Mais on est très actifs, mais on a conscience que ce qu'on fait est très peu de choses par rapport à l'ampleur des choses à faire. Mm-hmm. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est clair qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que les gens soient autonomes, et c'est ça. Mm-hmm. Parce que le problème, il faut dire ce qu'il est, l'homme il est tel qu'il est, vole pas du poisson mais apprend à pêcher, quoi. C'est ça un petit peu l'histoire. Il faut donner les moyens aux gens d'être autonomes, dignes, respecter les autres, et je crois que c'est ça, le jour où on considérera pas l'handicapé de la vue comme une personne normale, parce qu'elle ne l'est pas, faut pas non plus exagérer, mais comme une personne crédible qui peut amener quelque chose, qui a une valeur ajoutée pour la société, on réussira. Il y a peut-être qu'un seul cas d'intégration vraiment réussie sur cette terre, c'est celle de Stevie Wonder. Parce que je pense que 9 voyants sur 10 ne savent pas qu'il est aveugle. Ils adorent simplement sa musique.
Pasteur, alors on va faire un tour de table. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la société, par rapport à la famille, ce qui sera donc relatif donc à la stigmatisation, au complexe d'infériorité ou de supériorité par rapport donc aux personnes handicapées visuelles?
Je veux dire à tous ceux qui sont source de stigmatisation que pour faire savoir à une personne handicapée qu'il est aimé, qu'il a de la valeur, qu'il a de la potentialité, ce n'est pas coûteux. La famille n'a pas besoin d'avoir 500 000 francs dans leur caisse pour faire savoir à l'enfant handicapé qu'il a la même valeur, la même importance que les autres enfants. Dans le milieu des amis, c'est la même chose. La personne handicapée n'exige pas des services ou une attention particulière. C'est la même chose dans le milieu du travail et même dans l'administration. Seulement, c'est quand il faut peut-être accompagner la personne handicapée pour une formation professionnelle adaptée à son handicap, que ça peut être un peu différent d'une formation pour une personne valide. Donc, ce qu'il faut, c'est seulement une volonté, que les gens sachent que tout est possible. De deux, je veux dire à la population que on ne peut pas se développer tout seul. C'est-à-dire, les personnes dites valides ne peuvent pas se développer en laissant à la traîne les personnes handicapées. Si on le fait, un jour on se rendra compte que le développement n'est pas réel.
N'est pas réel.
Voilà. Parce que le monde aujourd'hui est devenu un petit village. Vous voyez, l'Occident se rend compte aujourd'hui que il faut aider l'Afrique à se développer pour que même si on n'est pas au même niveau de développement, au moins que la différence ne soit pas trop grande. Sinon, il y aurait toujours des problèmes. Et c'est la même logique au niveau local. Les valides ne peuvent pas avancer sans les personnes handicapées. Voilà, ce n'est pas possible. Il faut que nous avançons ensemble.
Ok, Yara, okay. Pour terminer cette émission. Mm-hmm.
Pour moi, c'est encore faire un appel aux familles. Aux familles des enfants handicapés de la vue, de se nourrir en tout cas d'espoir que ces enfants-là sont comme les autres enfants et qu'ils peuvent réussir en tout cas dans la société pour peu qu'on leur accorde une attention. Parce que j'avoue pour terminer que à Périgba à côté, il y a un père de famille qui m'a complètement déçu parce que sa fille est arrivée au CE1 et elle a perdu la vue. J'ai tout fait, l'enfant a intégré l'école Sacré-Cœur de Gawa. Et quand j'étais à Ouaga en mission, il est venu faire partir la fille en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une sœur religieuse qui a récupéré l'enfant et qui a même envoyé l'enfant qui a reçu une opération oculaire et puis on lui a donné des verres correcteurs. L'enfant est revenu pour les vacances au village. Il a bloqué l'enfant laissé au village et même les verres ont été brisés. Je ne sais pas comment. Et l'enfant est resté encore presque aveugle. Je suis parti le voir et j'ai dit, bon, je lui donne un temps pour que l'enfant retourne en Côte d'Ivoire puisque là-bas, les sœurs ont réussi encore à la scolariser. Dans le cas contraire, il a la gendarmerie sur son dos. Pour vous dire jusqu'où les parents n'ont rien compris par rapport à leur enfant. Ce n'est pas à nous de courir toujours. Nous, nous les orientons. Nous n'avons pas demandé les enfants pour eux, mais si l'enfant vient, qu'ils aient l'amour de cet enfant-là. Quoi qu'il arrive, c'est leur enfant.
Jean-Marc ?
Je ne me sens pas très à l'aise pour faire une conclusion après ces deux témoignages très émouvants, mais ce que je vais simplement dire, c'est pour que les mentalités évoluent, il faut que l'État, la société, donne les moyens aux personnes handicapées de la vue et aussi à leurs parents de les former. Et je crois qu'il faut, aussi que nous, personnes handicapées, on lutte contre cette espèce de sentiment de pitié dont, duquel on profite de temps en temps. Hein, Yara, t'es d'accord ?
Oui, oui.
Hein ?
Oui.
Il faut aussi que nous, on fasse l'effort de refuser cette condescendance, cette pitié qui part des fois d'un bon sentiment, et puis qu'on soit comme les autres, puis qu'on nous fasse confiance, qu'on nous dise, ah ben non, ben là, écoute, on t'a fait confiance, tu t'es loupé, ça va pas, ton rapport que t'as fait, il est pas bon, je te parle, je te dis pas ça parce que t'es handicapé de la vue, je te dis ça parce que t'as mal fait ton boulot.
C'est ça.
Et à avoir des rapports vraiment normaux, mais nous aussi, personnes handicapées, on doit aussi faire les efforts. On n'a pas que des droits, on a aussi, nous, des personnes handicapées de la vue, des devoirs, et je pense que c'est important. Mais en tout cas, en conclusion, pour moi, ma part, pour ABCD, à la population burkinabé, merci pour votre accueil. Moi, je ressors jamais indemne de ce pays. Chaque fois, il y a une nouvelle émotion, chaque fois, il y a une nouvelle expérience, chaque fois, je connais de nouvelles gens. Et je me sens toujours mieux dans ce pays. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur.
Cette émission est terminée. Elle était donc animée par la Olo Daniel Palais avec nos amis Yara Kambou, Passeur Bouba Odraogo et puis Jean-Marc. Joël Sommet était donc aux opérations techniques. On vous retrouve prochainement pour autre numéro. Parole aux associations et structures associatives.
Vous venez de suivre Parole aux associations et mouvements associatifs, une émission de Radio Évangile du Sud-Ouest.